En attendant, je laisse à notre invité d'hier le soin de lancer l'émission d'aujourd'hui.
Bonjour, c'est Nicolas Sada. Vous écoutez Pop Pop Pop. Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop-Popienne, Pop-Popien et tous les autres aussi, bonjour. Une des manifestations les plus originales de l'exception culturelle française, c'est la fameuse rentrée littéraire qui déverse cette année sur les comptoirs des librairies pas moins de 624 romans. Alors certes, il faut tempérer cette bonne nouvelle, comme le disait très justement Enzo dans Le Grand Bleu, beaucoup d'apnée, peu d'élus et nombreux seront les auteurs qui devront se contenter de 624 lecteurs. Oui, comme la Roche Tarpeyenne était proche du Capitole, la sortie littéraire n'est qu'à deux pas de la rentrée du même nom. Mais dans cette rentrée, passé les habituelles et incontournables têtes de gondole à chapeau, se dissimulent quelques pépites sur lesquelles Pop 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 tentera de braquer le projecteur de sa sagacité. Et pour ouvrir le bal, nous allons aujourd'hui parler d'un roman qui a littéralement électrifié mon break estival. Vous savez ce que c'est ? On arrive en vacances en ayant l'impression d'être un slip kangourou sortant d'une machine à laver, lessivé, rincé, essoré. On a besoin de détente, de farniente, d'activité ne sollicitant que raisonnablement une intelligence mise à rude épreuve par 10 mois de fréquentation assidue des médias. Oui, on se dit qu'après avoir tout porté, on va se laisser un peu porter soi-même et puis on tombe incidemment sur un livre qui vous secoue tellement qu'aussitôt on regrette de ne pas avoir un micro sous la main pour dire à tout le monde de se jeter dessus. Heureusement, les vacances sont finies, j'ai retrouvé mon micro et avec lui l'occasion de vous donner envie de vous jeter sur le livre en question. Il s'appelle « Les yeux rouges ». Non, ce n'est pas un livre sur la myxomatose, encore que, et son auteur Myriam Leroy est l'invité de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Paune.
Ah, mais écoutez, celle qui n'a pas les yeux rouges, mais une presbytie précoce.
Ça,
et les cheveux.
Ça, c'est très laid. C'est très laid ce que vous faites, Antoine de Cône. Je ne vous félicite pas. Bonjour.
Bonjour, Charline Roux, et bonjour, Myriam Leroy.
Bonjour.
Bienvenue dans notre studio.
Merci.
Avec vous, nous allons donc parler de votre deuxième roman, Les yeux rouges, qui nous a littéralement vitrifiés à Pop Pop Pop. Et on va vous dire pourquoi. Au menu également de l'émission, un artiste que je vous déconseille de rater. Il s'appelle Dylan Leblanc, c'est un sudiste ricain qui publie son quatrième album Renegade et qui sera tout à l'heure en live sur la mythique scène de Pop Pop Pop. Mais avant ça, Myriam Leroy, ici, il existe une question. Une question encore plus trash qu'une réplique du film Maîtresse très particulière que j'ai diffusée hier et qui a heurté la sensibilité de quelques auditeurs et je m'en excuse ici. En voici donc la version censurée.
En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu s*** ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule.
Voilà. Et cette question, c'est... Pour vous, Myriam Leroy, c'est quoi la pop culture ?
Ben, c'est ce qui nous relie, je crois, c'est ce qui nous lie. Ce sont ces phrases, ces répliques de films qui sont rentrées dans le langage courant. C'est des signes de ralliement, je pense. Mm-hmm. C'est quand on entend « prenez un chewing-gum, Émile ». Quand on demande un chewing-gum, on sait qu'on va bien s'entendre avec la personne. Ça peut être aussi... des albums live de Jean-Jacques Goldman ou Mylène Farmer qui pleure sur scène. Enfin, je crois que ouais, c'est un moyen de...
Ah oui, c'est très ouvert.
De se rencontrer, ouais.
Un moyen de se rencontrer.
Ouais.
Ok. Eh bien, rencontrons-nous aujourd'hui, si vous le voulez bien.
En écoutant Mylène Farmer.
Ouais. Pour être tout à fait honnête, j'ai eu dans cette émission des réponses myriamisées, le roitisante, belginiqueuse ou même outre-kiévraine. Et parmi mes préférées, il y a eu celle de Riyad Satouf que vous aimez autant que nous, semble-t-il. Écoutez-le.
C'est quelque chose... de culturel qu'on pourrait transmettre avec n'importe qui, que ce soit ses parents, ses enfants, mmh. Et en même temps les choquer un petit peu, ou les bousculer dans leur certitude.
Est-ce qu'on conjuguerait pas par hasard ces deux réponses ?
Mais tout à fait, ça mais de toute façon Riyad Satouf a toujours raison.
Vraiment ?
Ouais.
Il n'a jamais pris un défaut ?
Jamais, non, cet homme est un génie, et quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse.
Eh bien, écoutez, voilà qu'il va rougir, lui qui nous écoute régulièrement, enfin tous les jours je crois même. Alors la pop, la culture et la pop culture, on en parle dans la suite de Pop Pop Pop, juste après un extrait de Metronomy Forever, le tout nouvel album de Metronomy qui arrive le 13 septembre. Et le titre c'est Salted Caramel Ice Cream.
Thank you.
Caramel Ice Cream, une glace au caramel salé, hein, si mon anglais est correct, du groupe Metronomy qui signe son retour avec un tout nouvel album qui arrive et...
Worldwide exclusive news from Pop Studios.
Voilà, Metronomy sera en live pour un concert exclusif le jeudi 19 septembre prochain pour la première nuit de la pop culture au monde. Une nuit en direct sur France Inter et en public depuis le Grand Contrôle à Paris. Plus d'infos très prochainement. Mais avant ça, aujourd'hui, nous sommes avec une invitée qui a déclaré, je la cite, « J'aime bien dire des gros mots, des trucs vulgaires avec mon air de bourgeoise, mon cul sur la commode. » Mais qui est donc cette invitée dont je me sens si proche ? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, un pop portrait, c'est votre portrait, Myriam, mais... Et c'est signé Charline...
Aujourd'hui, une invitée de type charmante. Très charmante. Bah quoi, vas-y, réponds. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Bah ça va, tu pourras au moins sourire. T'es pas contente ? Hystéro, va. Je viens de vous offrir quelques secondes de détente dans la vie IRL d'une femme lambda. Que celle à qui ce n'est miraculeusement pas arrivé me jette la première pierre. Il va falloir aller vite, sinon elles se feront doubler par les trolls qui ne manqueront pas de se munir de leurs petits cailloux virtuels. Car oui, c'est de ce genre de comportement et d'escalade fort sympathique qu'il va être question aujourd'hui. Et de littérature de type vertigineuse aussi, puisque notre invitée est une femme, est journaliste, est humoriste, à point de vue qu'elle a eu l'outrecuidance de livrer en radio et en télé. Et aussi une formidable écrivaine remarquée pour son premier roman Ariane et qui ne manquera pas d'être célébrée comme il se doit pour celui-là, que je qualifierais, parce que mon verbe est moins rutilant que celui du patron, de bonne tartasse de cette rentrée.
Merci Charline. Oui Myriam, vous savez tout faire, vous avez même fait de la radio, hein, ça prouve ça.
Ouais, ouais, ouais.
Vous vous sentez mieux de quel côté du micro ?
De votre côté.
De mon côté à moi.
Oui, oui.
Switch.
Mais non, j'ai pas préparé. Alors. Non, c'est compliqué quand même. De...
Bien. Alors, Myriam Leroy, je ne veux pas divulgâcher votre popliste qui va suivre. Oui, j'ai appris ce mot hier grâce à Nicolas Sarda et j'ai adoré. Alors, arrêtons le suspense et découvrons-le ensemble. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur King Kong Theory, l'essai de Virginie Despentes, publié en 2006. Charline, je sais que vous êtes fascinée par les grands singes. Il vaut mieux fréquenter King Kong en pratique ou en théorie ?
En théorie, je dirais, parce que je ne suis pas très nouveaux animaux de compagnie. King Kong, je cite, fonctionne comme la métaphore d'une sexualité d'avant la distinction des genres. C'est donc le manifeste d'un nouveau féminisme ou d'un féminisme nouveau. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on puisse trinquer avec Virginie Despentes.
Bien. Myriam Leroy, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes.
Mais avec grand plaisir. C'est le tout début. Il est mythique. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien. Je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire.
Extrait donc de King Kong Theory, lu par vous, Myriam Leroy. Expliquez-moi maintenant pourquoi ce livre est tellement important pour vous.
Parce que là aussi, c'est une énorme tartasse. Et c'est un livre qui a fait mon éducation féministe. Il est sorti en 2006. Avant, j'étais intuitivement féministe, un peu comme tout le monde ou comme toutes les filles. Mais là, ça a complètement plaqué. Enfin, déjà, ça m'a retourné. Hein. Ouais, c'est vraiment une claque qui retourne la tête à 360 degrés. Et puis, c'est fin.
Autant pour ce qu'il raconte que par la manière dont il le dit.
Oui, c'est ça. Elle écrit sans tourner autour du pot. No bullshit dans l'écriture de Virginie Despentes. Ça, j'adore. Et ouais, c'est un livre qu'on peut lire, relire et relire, et à chaque fois redécouvrir. Il est toujours d'actualité, il se réactualise toujours. C'est un classique parmi les classiques.
No bullshit dans l'écriture, ça devient une ligne de conduite ?
En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire en m'inspirant peut-être un peu de Virginie Despentes. C'est pas tourner 6 ans autour du pot, enlever tout ce qui serait là pour faire joli ou tout ce qui serait de la belle phrase, de la grande phrase, tout ce qui essaye de faire de la littérature. J'essaye d'écrire comme on parle, tout en construisant une forme qui soit intéressante à lire aussi.
Vous êtes très loin de Éric Emmanuel Schmitt, donc.
Je sais pas.
Alors, pour le film, vous avez choisi
une
jeune femme dont on se ferait bien des sushis. Je veux bien sûr parler de La Petite Sirène, le film de Disney sorti en 1989. Charline, vous qui portez aussi des soutiens-gorge en coquillage, racontez-nous.
Alors, c'est vraiment pour la beauté du geste, parce que ça gratte. Ariel est une sirène. Ariel est la fille de Triton qui hait les humains. Mais Ariel, elle rêve de partir là-bas. Elle donnerait tout ce qu'elle a pour partir d'ici, pour caresser les grains dorés du sable chaud. Les hommes comprennent, elle en est certaine. Oui, et leurs filles peuvent aimer sans frayeur. Femme sirène, femme humaine,
elle a fait son choix.
Walt Disney Pictures vous présente un événement cinématographique exceptionnel. La Petite Sirène. Un voyage inoubliable au-delà de tout rêve. Une aventure merveilleuse dans les profondeurs de la mer. le nouveau chef-d'œuvre du dessin animé sur vos écrans le 28 novembre. Walt Disney Pictures vous présente La Petite Sirène.
La Petite Sirène, le choix cinéma de Myriam Leroy. Alors, la question sans doute la plus pointue de cette émission, Team Ariel ou Team Pelochon ?
Mais Team Ariel, bien sûr.
Bien sûr.
Non, mais Pelochon est tout à fait accessoire dans cette histoire.
Mm-hmm. Ouais. Vous validez ça ?
Moi, je suis très la méchante, que je trouve
Ursula.
Bah oui.
Mais oui, Ursula. Mm-hmm. Ouais. Elle a tout compris.
Mais alors, pourquoi cette petite sirène ?
Alors, je pense que c'est un des Disney, un des pires Disney, en fait. En le redécouvrant, en le revoyant aujourd'hui, je trouve que ça a extrêmement mal vieilli. Je crois que plusieurs animateurs se sont succédés sur La Petite Sirène et en fonction des scènes, elle change de tronche, elle change de cheveux. Mais à l'époque, j'avais 7 ans. C'était en 1989 que le film est sorti et je suis tombée en obsession totale pour ce film, pour cette héroïne. Et moi, je pensais que j'étais promise au destin inverse, en fait. Elle était promise à un destin d'humaine et moi, je croyais vraiment que les profondeurs de l'océan
allaient à la mer.
Ouais, c'est ça. Et bon, c'était pas encore arrivé, mais.
Ah, c'était ouais. Étrange.
Pourtant, le film est un peu douteux aussi. Je pense qu'il a un sous-texte pas tout à fait féministe non plus, mm-hmm. mais ça me faisait tellement rêver.
Et ça nous fait toujours rêver, n'est-ce pas,
Charles? Surtout vous, ouais.
Mais oui, bien sûr.
Vous connaissez toutes les chansons par cœur.
Évidemment, moi je suis plutôt Tim Pelochon. Enfin bon, pour la série, vous choisissez Lost, ou Perdu, hein, dans la version canadienne. Alors, c'est une série qui a vu le jour en 2004 sur ABC et qui figure au panthéon des séries pour l'excellente Charline Roux, qui va nous dire pourquoi en deux mots.
Parce que Lost est à la série ce qu'Arctic Monkeys est à la musique, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux. Une bande de naufragés coincés sur une île étrange suite au crash de leur avion. 4, 8, 15, 16, 23, 42, des chiffres tout aussi mystérieux. Et cette réplique inoubliable.
We have to go back, Kate. We have to go back.
We have to go back, qu'on pourrait traduire par il va falloir rentrer, non ?
Non, il faut qu'on y retourne.
Ah, pardon, excusez-moi. Alors Lost a été élue meilleure série des 20 dernières années par le magazine I. Vous confirmez, j'imagine, Myriam ?
Je trouve aussi qu'elle a assez mal vieilli, cette série, parce que j'ai essayé de me la re-regarder, parce qu'elle est sur des plateformes de streaming. Mais à l'époque, donc en 2004, moi j'étais aussi totalement obsédée par Lost. J'étais sur des forums, on n'était pas encore à l'heure de Facebook et Twitter, il y avait des forums pour essayer de déchiffrer cette fameuse série de chiffres 4, 8, 15, 16, 23, 42. Ouais. Et en fait, pendant 6 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il... Je sens que je touche le mystère du doigt. Et en fait, après le dernier épisode, on s'est fait arnaquer sur toute la ligne. Lost, c'est une grosse arnaque. La fin est vraiment pourrie, mais les 6 années que ça a duré, le voyage était tellement intéressant que tant pis pour l'arrivée.
Donc je remarque que vous restez fidèle à vos premiers chocs esthétiques.
Moi j'ai décidé de vous dire la vérité, de ne pas vous filer des références dans Télo, alors que j'aurais pu. Mais...
La Petite Sirène, Lost, vous restez... Voilà, ce que je veux dire, c'est que vous avez été très frappé par ça quand vous les avez vus pour la première fois, et c'est resté des événements majeurs en fait pour vous.
Oui, et presque pathologiquement, j'étais vraiment obsédée et par La Petite Sirène et par Lost. Et j'ai rêvé de vivre dans ces mondes-là, quoi. Bon, alors qu'ils n'ont rien de très chatoyant et rutilant pour les premiers prisonniers, mais moi j'adorais.
Et si j'écris Not Penny's Boat sur ma main et que je vous la montre, ça vous fait pleurer ou pas?
Oui, bien sûr.
Bah, voilà.
Mais on n'a jamais
vous
compris.
Sentez exclu, hein,
vous sentez exclu. Enfin bref, terminons cette pop list avec votre chanson culte et cette chanson, c'est celle-ci. Janet Jackson, That's the way the love goes, qu'on pourrait traduire par il va falloir rentrer. Hein,
ah, c'est pas l'amour.
Grammy Award de la meilleure chanson R&B en 1993. Vous aimez toute la discographie de Janet Jackson, Myriam Leroy?
Pas la très très récente, mais ouais, une grande partie de la discographie de Janet. Je trouve qu'elle a la voix la plus sexy de la musique, voilà, tout simplement. Et puis le début de cette chanson, sa voix parlée est complètement incroyable quand elle fait « Like a moth to a flame, burned by the fire, my love is blind, can't you see my desire, that's the way love. » Of course. Je trouve que c'est vraiment... Enfin, voilà, ça donne envie de faire l'amour, cette chanson.
Un événement particulier en 93 que vous avez lié à la découverte de cette chanson ?
Ma première masturbation. Non. Non, rien de spécial.
Bien, alors je résume. Myriam Leroy, King Kong Theory, La Petite Sirène, Lost et Janet Jackson. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
Walt Disney Pictures vous présente un événement cinématographique exceptionnel.
We have to go back, Kate.
Un voyage inoubliable au-delà de tout rêve, une aventure merveilleuse dans les profondeurs de la mer.
We have to go back.
J'écris de chez les moches, pour les moches, toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf.
La petite sirène.
Voilà ce qui se passe dans la tête de Myriam Leroy.
C'est très émouvant d'entendre ça. Ça fait trouvé le même effet à tous vos invités.
Oui.
Ah oui, voilà. Oui, oui.
Certains veulent absolument repartir d'ailleurs avec leur Robbins. Ouais. Vous repartirez avec, c'est promis. Alors Myriam Leroy, c'est chic, c'est pop de choisir Jane Jackson, mais j'aimerais rendre hommage à vos origines belges en écoutant Les Vedettes, d'un groupe de majorettes trash découvert par Philippe Catherine. Le titre, c'est Ta vie est pourrie, ce qui n'est pas un jugement bien sûr, mais je le répète, le titre qu'on écoute tout de suite.
Inter. Antoine Decaune.
C'était Les Vedettes, un groupe donc de majorettes trash, découvert par Philippe Catherine. Comme je le disais, est-ce qu'une Belge, la Belge que vous êtes, Myriam Leroy, valide la pop belge?
Je valide totalement la pop belge. Oh, oui, y a plein de bonnes choses. Bon, non, pas à 100%, mais ça par exemple, je trouve ça assez sympa. Et puis on ne peut pas franchement leur donner tort aux vedettes.
Que la vie est pourrie?
Ouais.
Certains jours. Bon, Myriam Leroy, aujourd'hui nous n'allons pas parler de pop belge, mais de votre deuxième et excellent roman que j'ai entre les mains. Ça s'appelle Les Yeux Rouges, c'est édité au Seuil. Alors Les Yeux Rouges, c'est l'histoire d'un harcèlement sur les réseaux sociaux, harcèlement qui vire à la persécution, une histoire comme il y en a tant, mais racontée avec une maestria éblouissante. On sent le vécu, non?
Oui, parce qu'il y a du vécu.
Il y a du vécu derrière.
Oui, oui, oui.
Racontez-moi ça.
Eh bien, c'est inspiré, cher Antoine, en partie de ma vie et de ce que j'ai observé dans la vie d'autres filles.
Mes aventures qui vous seraient donc arrivées.
Mes aventures qui me sont arrivées, car il faut savoir que, et je ne vous l'apprends pas, Charline, que dès qu'une femme accède à une forme de notoriété, si elle a quelque chose à raconter, bah, y a toujours à retour de bâton. Ça fait partie un peu de l'ordre des choses sur Internet.
Non, mais puis lâchons le mot tout de suite, c'est de misogynie dont il est clairement question, puisque votre héroïne est attaquée parce que femme. C'est l'essentiel du procès qui lui est fait.
Oui, oui, mais c'est évidemment pas ce qu'on lui dit. On lui dit pas « je t'attaque et je veux te faire taire parce que t'es une femme ». Je t'attaque et je veux te faire taire parce que t'es conne, parce que où as-tu eu ton diplôme, parce que tu as dû coucher pour réussir, etc. etc. Mais oui, oui, enfin c'est très 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 courant en fait hein, sur les réseaux sociaux et dans la vie de toutes les femmes journalistes, humoristes, politiques ou simplement protagonistes de faits divers qui ont même pas choisi d'accéder à la notoriété mais qui, par la force des choses, entrent dans la lumière et puis voilà, ça devient des clous qui appellent le marteau et le marteau.
Oui,
très fort.
On va y revenir au clou et au marteau, mais justement, le fait que ça soit un phénomène répandu, ça n'en fait pas pour autant des bons romans, ce qui n'est pas le cas avec vous, parce que comme dans Ariane, votre premier roman, qui racontait l'histoire d'une amitié toxique entre deux adolescentes, il est encore ici question de séduction et de cruauté. Ça veut dire que les deux sont inextricablement liés.
En fait, je ne me rendais pas bien compte en les écrivant ces livres qu'ils allaient parler un peu de la même chose. C'est maintenant que je le remarque. Mais oui, il y a quelque chose de l'ordre. La manipulation, la séduction, la cruauté, ouais, c'est ce qui les relie. Et le suicide aussi, c'est un motif récurrent. Manifestement, ça me travaille inconsciemment. Ouais.
Et dans Les yeux rouges, en fait, la ligne entre séduction badine et comportement offensif est assez floue au début du récit. Mais en fait, c'est quand les attaques professionnelles se déclenchent, des attaques extrêmement virulentes que subit votre héroïne, dont on se rend compte que les attaques sont immédiatement extrêmement sexuées, ce qui est rarement, voire jamais le cas des journalistes mâles.
Oui, oui. Alors, on dit souvent aux femmes harcelées sur Internet, quand elles sont un peu connues, qu'elles font de la télé ou de la radio, c'est le revers de la médaille. Bon, déjà, il faudrait voir si la médaille a un autre côté qui est plus rutilant, et c'est pas toujours le cas. Et puis, c'est une médaille que portent pas nos homologues masculins, même un présentateur de JT, même quelqu'un de très très connu, aura peut-être quelques boulets femmes qui les poursuivent de leurs assiduités. Mais des insultes et des menaces à caractère sexuel, génital, il me semble que c'est très très rare, voire inexistant.
Dans les deux livres, il s'agit de pouvoir hein, et d'abus de pouvoir sur l'autre. Vous avez le sentiment d'être dans un moment, une époque où la notion de pouvoir, notamment entre hommes et femmes, bouge et dans le bon sens ?
Je ne sais pas si elle bouge, mais elle est questionnée en tout cas. C'est une question qui est à l'ordre du jour. On me demande souvent, est-ce que vous pensez que MeToo est un pas en avant
Est-ce que vous pensez que MeToo est un pas en avant, Myriam Leroy?
Eh ben alors oui, on fait trois pas en avant avec la libération de l'oreille masculine, parce que c'est plutôt ça, plus que la libération de la parole féminine. Puis on assiste à un backlash et on retourne de deux pas en arrière, donc finalement on n'a avancé que d'un seul pas. Puis il y a le dévoilement d'un scandale tel que celui de la Ligue du LOL. Alors on avance aussi, parce qu'on a l'impression que les consciences sont plus ouvertes à se laisser travailler par ce type de problématique. Et puis voilà, il y a toujours un petit retour ou un gros retour, retour de flamme. Et donc on avance, je crois, mais vraiment à petits pas.
La narration du roman est très particulière. L'histoire est racontée à la première personne, mais sur un ton, quoique très présent, un peu désincarné, un peu flottant. Comment est-ce que vous avez trouvé la voix de ce roman ?
En cherchant beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant des années, parce que ça faisait des années que je voulais écrire un roman sur cette thématique. Et puis j'essayais en jeu, en tu, en il, au présent, au passé, et ça marchait jamais. C'était soit trop incontinent émotionnellement, soit trop distancié. Enfin, et puis un jour, voilà, on sait jamais comment elles arrivent les idées, mais celle-là est tombée. Et j'ai essayé de réécrire pour la 10e fois un roman sur ce sujet avec ce dispositif narratif. Et ça a marché, et ça me semblait vachement intéressant aussi, parce que ça permettait de mettre, non pas la violence, mais toute la douleur hors champ, un peu comme dans un film de Michael Haneke, Funny Games, que vous avez certainement vu, ce qui permet aux spectateurs et aux lecteurs de s'imaginer la douleur avec son propre ressenti, avec son propre vécu. Et je vois que mes premiers lecteurs, en tout cas, sont... Et, enfin voilà, pour eux, c'est très 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 douloureux de lire ça. Donc c'est intéressant, c'est comme ça permet de pas prendre en otage quelqu'un avec une histoire qui dit regardez comment j'ai souffert, qu'est-ce que c'est dur d'être une femme à l'heure actuelle.
Non, puis vous évitez le pathos. C'est un livre qui est littéralement fascinant. On avait échangé nos impressions avec Charline après pendant les vacances. Oui. Et ça nous a fait le même effet. Oui. C'est un livre qu'on ne peut plus quitter. Une fois qu'on en a ouvert la première page.
Mais je suis ravie.
La force de votre texte, Myriam Leroy, elle tient à l'atmosphère étouffante que vous créez, et notamment en jouant avec les codes contemporains, comme par exemple les emojis. Est-ce que l'écriture numérique, celle qu'on trouve sur les réseaux sociaux, fait bouger la littérature, ou plutôt est-ce qu'elle condamne la littérature à bouger ?
Mais j'ai un peu ni l'un ni l'autre, j'ai l'impression, parce que Mais que ce soit la littérature ou le cinéma, alors que les réseaux sociaux sont dans nos vies tout le temps, quand on est dans la rue, dans le métro, tout le monde est sur son téléphone en train de pianoter, d'envoyer un truc sur Twitter, sur Facebook. Mais les arts populaires n'ont pas encore intégré cette les écrans dans nos vies. Il y a bien des films qui essayent, mais alors c'est enfin voilà, les SMS ou les messages Facebook sont écrits sur l'écran, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas encore. Et c'était aussi pour moi tout l'enjeu, c'est de ramener quelque chose qui est hyper important pour tout le monde, qui fait, on y passe des heures et des heures par jour, et pourtant on n'arrive pas encore à le raconter, à le transmettre. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire modestement.
Le roman raconte aussi très très bien le comportement destructeur de la meute, si virtuelle soit-elle, et ce que votre héroïne s'entend répéter, soit, je cite, « ce que tu ignores ne peut te faire souffrir ». Est-ce qu'en réalité c'est si facile de débrancher, de se déconnecter, et est-ce que ça permet réellement d'ignorer ce qui est dit ?
Je pense que la déconnexion c'est un luxe, que tout le monde n'y a pas accès, que quand on est nouveau sur le marché du travail, quand on est jeune journaliste par exemple, on peut pas se permettre de pas être sur les réseaux sociaux, on peut pas se permettre de pas aller humer l'air du temps. Et puis même quand on se le permet, comme moi aujourd'hui, parce que moi je suis plus sur les réseaux sociaux, je suis vaguement sur Instagram, mais vraiment très vaguement, en fait on le sait. On le sait qu'il se passe quelque chose, soit parce qu'on a un copain qui nous envoie une capture d'écran, soit parce qu'en fait on le sent et c'est comme un nuage noir qui nous suit partout, qu'on ne voit pas vraiment, mais on sait qu'à un moment donné il va se mettre à pleuvoir et on ne peut pas s'y préparer, on ne peut pas l'anticiper. Donc on peut décider de déconnecter, mais Internet reviendra de toute façon dans la vie par la porte ou par la fenêtre, qu'on le veuille ou non.
Ce livre, votre deuxième roman, Les yeux rouges, Myriam Leroy, j'ai failli ne jamais l'avoir entre les mains parce que vous avez hésité à le publier. Pourquoi ?
J'étais pas sûre qu'il était bon, voilà, tout simplement. J'étais pas sûre que ça avait de l'intérêt pour moi. Mais est-ce que ça en avait pour le lecteur ? Et puis mon éditeur a mis vraiment très très longtemps avant de me répondre quand je lui ai envoyé le manuscrit. Donc je
me suis dit, bon, ça,
c'est mort. J'en ferai peut-être une pièce de théâtre un jour ou une chronique radio ou rien. Mais je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose à faire avec ce sujet. Maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que ça rencontre sa cible ou pas ? Ça c'est aujourd'hui que je m'en rends compte. Mais pendant tout le processus d'écriture, on ne sait jamais si ça va donner un livre publié et imprimé.
Puis peut-être aussi à cause du fameux adage guide de survie numérique, don't feed the troll. Il y a peut-être une angoisse aussi de ce côté-là, de savoir est-ce que ça ne va pas relancer la machine d'une manière ou d'une autre.
Mais ça, disons que pendant que j'écrivais, je refusais d'y penser parce que alors on n'écrit plus sur rien, sur personne. On se dit, ah, mais ma voisine va peut-être être vexée parce qu'elle aussi, elle a des chaussures rouges. Je m'interdis de penser aux conséquences de ce que je fais pendant que je le fais. Et puis je me dis, de toute façon, ce sera peut-être jamais publié, ça n'aura jamais l'œil d'un éditeur. Donc il sera toujours temps de réfléchir aux éventuelles conséquences néfastes. Une fois que ce sera concret.
Un mot de ce titre, Les yeux rouges, est-ce que c'est aussi un des effets d'une présence trop assidue devant un écran ?
Oui, il y a de ça aussi. Et puis, la narratrice rencontre aussi des problèmes médicaux parce qu'elle somatise en fait ce qui lui arrive et elle va s'engager dans une forme d'errance médicale. Elle va consulter des grands spécialistes éminents, mais aussi des charlatans tout aussi éminents. Et en fait, chez elle, ça va se traduire, toute cette angoisse va se traduire par des problèmes aux yeux, quoi, des problèmes ophtalmaux. Et c'est ce qui s'est passé chez moi, hein, très clairement. Moi, j'avais l'air d'un lapin russe atteint de la myxomatose pendant environ 2 ans. Et personne n'a jamais su ce que j'avais. Et c'est parti, comme c'est arrivé, sans crier gare.
Je reviens au marteau que vous évoquiez tout à l'heure, Myriam Leroy, parce que pour vous, ce harcèlement 2.0 concerne tout le monde. Je vous cite, hein, toutes les minorités et toutes les minorisées sont, dites-vous, des clous pour le marteau. Une chanson n'a jamais empêché la guerre. Un roman parviendra-t-il à convaincre tous les marteaux de France de rester dans leur caisse à outils ?
Encore faut-il qu'ils lisent le roman. Je suis pas sûre que les premiers concernés vont lire le roman.
Et
je suis
même pas 280 signes. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais je suis même pas sûre que les gens s'y retrouvent en fait, parce que je reçois des messages de bravo pour ce roman, c'est vraiment nécessaire. Merci beaucoup Myriam, de la part de types qui sont des harceleurs notoires. Donc non, je pense qu'on se voit pas toujours très bien tel qu'on est.
Et le danger quand on est victime de ce genre de comportement, et on le lit bien dans le roman, c'est le comportement dont il est important de rappeler qu'ils sont donc abusifs, hein, c'est que la victime finit presque par se conformer à l'image que la meute lui renvoie.
Oui, à force d'être définie uniquement par les autres, et tout le temps par les autres, il y a un moment donné où on devient ce qu'on dit de soi.
Votre histoire personnelle vous a fait quitter les réseaux sociaux, comme vous le disiez il y a quelques instants. Est-ce que vous pensez comment pensez-vous qu'ils vont évoluer, ces réseaux sociaux, dans les prochaines années ?
Bah alors en fait, moi j'ai quitté les réseaux sociaux, mais pas parce que j'étais harcelée, même si je l'ai été par intermittence, hein, mais je suis pas tout le temps harcelée. Hein, il y a pas que ça dans ma vie. J'ai quitté les réseaux sociaux par lassitude et par cet espace mental que prenaient notamment les messageries et puis les petites icônes rouges, les notifications. Je trouvais ça très très fatigant. Je crois que j'ai fait un burn-out mental par rapport aux réseaux sociaux. Et comment ils vont évoluer? Je pense bien. Sans savoir vraiment vous expliquer comment et pourquoi, mais
après,
je pense qu'il y a vraiment
une lassitude. Après les excès, ça va se stabiliser en
mais
vol.
Il y a tellement de gens qui sont lassés de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ouais. Et pas uniquement des comportements haineux, mais aussi simplement de. J'en ai marre de voir ma voisine de palier poster des photos de ses chats. Il y a quelque chose qui au début nous paraissait vraiment génial et hyper excitant dans le côté voyeuriste, et je pense qu'on est tous un peu gavés. Aujourd'hui, qu'on est un peu obèse en fait, de toutes ces informations. Et je vois beaucoup de gens autour de moi qui déconnectent et qui se reconnectent à la vraie vie.
Vous évoquiez tout à l'heure ce qu'on appelle l'ère post-Weinstein. Vous êtes optimiste? À défaut de dire on avance vraiment, est-ce que vous êtes au moins un peu optimiste?
Moi, je suis au moins un peu optimiste, notamment parce que toutes ces histoires ont fait en sorte que les femmes ont commencé à se parler entre elles. Avant, il n'y avait pas de partage d'expérience. Quand on était harcelé, notamment, on croyait qu'on était la seule au monde à être harcelée. Et souvent, on nous disait, mais ça n'arrive qu'à toi. Ou qu'est-ce que tu as fait pour susciter ça? Qu'est-ce que tu lui as fait? Donc, on y croyait, évidemment. Ouais. Sauf qu'on s'est rendu compte que... À toutes, on nous disait, ça n'arrive qu'à toi. Et si on est 100 000, 100 millions, 1 milliard à qui on dit ça n'arrive qu'à toi, c'est que ça n'arrive peut-être pas à nous. Donc il y a une repolitisation, enfin non, une politisation, parce que c'était pas politisé ce type de sujet. Et le fait d'en prendre conscience et de libérer le dialogue entre les femmes, ça je trouve ça vraiment super, super.
C'est un livre fascinant qu'on vous recommande plus que chaudement dans cette émission. Ça s'appelle Les yeux rouges de Myriam Leroy. C'est édité au Seuil. Ça fait partie des 624 romans de la rentrée. Mais celui-là, faut vraiment pas le laisser passer. Faites-nous confiance. Myriam, vous savez faire plein de choses. Est-ce que vous savez faire ça?
Je crois pas. Non.
Oh, c'est un petit pop belge. Hein, bon, c'est pour lancer les pop news.
La concurrence est impitoyable dans le monde de la SVOD et un nouveau poids lourd débarque en novembre outre-Atlantique et un peu plus tard chez nous, son nom Disney+, qui lors d'une gigantesque conférence de presse faite à la saucisse, a dévoilé quelques-uns de ses futurs programmes et voici déjà notre préféré.
My name is Jeff Goldblum. The name of the show is The World According to Jeff Goldblum.
Le monde selon Jeff Goldblum. Tout est dans le titre, hein, dans la bande-annonce, il est de tous les plans, il mange des glaces, il s'intéresse à des baskets, il danse et il tatoue des gens. C'est d'ores et déjà un grand oui.
Un inédit signé Jeff Buckley, 25 ans tout pile après la sortie de son album Grace. Une démo très recherchée par les fans a été enfin dévoilée. Elle est issue de la toute dernière session d'enregistrement en studio du chanteur disparu en 97. Un petit bijou intitulé Sky Blue Skin.
Chances are you wouldn't even recognize the man I am now.
Et Sky Blue Skin, qu'on pourrait traduire par Il va falloir partir maintenant, est désormais accessible sur toutes les plateformes de streaming.
Le tweet cinéphile du jour concerne le film de Guillaume Niclou avec Houellebecq et Depardieu, sorti la semaine dernière, et je vous le livre de ce pas, ouvrez les guillemets. Thalasso, trois petits points, hors norme, trois petits points, à voir absolument, fin de citation. Une micro-critique signée Alexandre Benalla, à laquelle Vincent Maraval, directeur responsable des ventes internationales chez White Bunch, a répondu. Du coup, j'ai un peu honte de le distribuer, merci d'effacer.
France Inter. Popopop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Jeff Buckley? Mais ce
non,
n'est pas possible, hein.
Jeff Goldblum.
Ah, enfin. Bah c'est un autre Jeff.
Oui, ça c'est un Jeff, vous avez raison. Merci Charline. Avant d'accueillir le chanteur et songwriter Dylan Leblanc que j'ai annoncé en début d'émission, écoutons-le avec le morceau Born Again.
You never had to look back.
Again, Dylan Leblanc, cet extrait de son quatrième album Renegade. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Myriam Leroy et vient justement de nous rejoindre Dylan Leblanc. Bonjour Dylan Leblanc.
Hello.
Hello. Alors Dylan, ok, ça sonne américain et c'est logique puisque vous êtes né en Louisiane, mais Leblanc, vous avez des origines françaises ?
Yes, French origins.
Oui, tout à fait, des origines françaises, oui.
Very far back.
Il y a longtemps, ça vient de loin.
Et d'ailleurs, le prononcez-vous Leblanc?
It depends on where I'm at.
Ça dépend où je me trouve.
Et donc aujourd'hui?
When I'm here, it's Leblanc.
Ouais. En ce moment, là, ici, c'est Leblanc, ouais.
Vous connaissez un petit peu de français, vous avez quelques mots de votre vocabulaire?
Laissez le bon temps rouler. That's ouais. Really all I know. I chanté merci. Ah,
ok, ça c'est la Louisiane, hein. Ouais. Yeah. Tu touches à Louisiane. Bien. Alors aujourd'hui, vous signez avec Renegade, un album que Rolling Stone a annoncé comme, je les cite, hein, une des plus belles surprises de l'été. Je voulais vous remercier car sur le podium en France cet été, nous, eh ben, on avait ce morceau-là. Allez, bonne sommeur, et toi, sur la puce. J'ai Dream, elle est bonne sa mère, titre que pour nous pourrions traduire par She's very beautiful, his mother. Hein.
Enfin, bon, bref, ouais.
Voilà. Alors, Renegade, c'est votre quatrième album, enregistré à Nashville, produit par Def Cobb, à qui l'on doit le son des Rival Sons, All Them Witches, entre autres, un album qui donne le sentiment d'une grande unité et d'avoir été enregistré presque live. C'est ce que vous recherchiez en travaillant avec lui, Dylan?
Tout à fait, chercher quelque chose de nouveau. J'essayais de trouver une nouvelle direction, quelque chose d'un peu plus upbeat, avec des tempos plus rapides.
That's why I hired Dave Cobb to
et c'est pour ça que j'ai demandé à Dave Cobb de m'aider. Yeah.
Le son est plus rock, plus électrique que sur le précédent. On évoque souvent Tom Petty, un autre sudiste célèbre, en parlant de vous. Est-ce qu'il fait partie de vos références?
Yeah, we definitely. I'm a huge fan of Tom Petty.
Ah oui, je suis un très grand fan de Tom Petty, bien sûr.
Definitely had a profound influence on me.
Il a eu une influence très forte sur moi, bien sûr. Effectivement, je viens du sud des États-Unis, comme lui. Et puis tout le monde aime Tom Petty. Et ça m'a certainement, c'est venu dans ma tête, dans mon subconscient, certainement.
Comment est-ce que vous définiriez cette sensibilité sudiste dans le rock américain, si toutefois une telle chose est possible?
I think what you're asking me is.
Je pense que ce que vous me demandez, c'est.
I would say it's just.
Je dirais.
Well, where I come from, it's very poor. You know.
D'où je viens, c'est un endroit très pauvre. J'ai grandi vraiment dans un monde assez dur. Il y avait beaucoup d'endroits sympas, pourtant. Mais ma musique parle, je crois, de gens qui se battent, qui doivent se battre au quotidien.
Relate more to people like that.
Mm-hmm. C'est de gens-là, je me sens proche d'eux.
C'est un point commun que vous pourriez avoir avec Bruce Springsteen, que j'aime beaucoup personnellement.
Ça faisait longtemps.
Avec qui vous êtes retrouvé sur scène? Vous pouvez me dire à quelle occasion?
We played the Hard Rock Calling Festival in
Hyde
Park in London in 2012.
Hard that was Park Collins Festival. Et puis on a à Londres aussi, on a joué aussi il y avait Paul McCartney aussi à Londres qui est venu. C'était un hommage à Springsteen.
I got to meet Bruce,
et j'ai pu rencontrer Bruce. C'était génial. Pour moi, c'est un héros.
Nebraska,
vraiment pour moi. Et Nebraska, c'est vraiment mon album toute ma vie.
Vous êtes heureux, Antoine?
Oui, très
content.
Happy, très
catégorie référence et Panthéon toujours, vous faites partie des heureux élus qui ont chanté avec Queen et Emmylou Harris en 2010. Vous aviez tout juste 20 ans. Quel souvenir est-ce que vous en gardez et quel conseil vous a-t-elle alors donné, si toutefois vous avez le droit de les révéler?
Elle m'a demandé de lui dire si jamais je n'aimais pas ce qu'elle chantait.
I said that there would be no chance of
J'ai répondu qu'il n'y avait vraiment aucune chance que ça arrive.
I bought her some flowers and I
Je lui ai acheté des fleurs.
Had her microphone all set up.
J'ai préparé les micros.
We did it in Franklin, Tennessee, which is
Et c'était à Franklin, dans le Tennessee. C'est à 20 miles au sud de Nashville. Dans une sorte de ferme qui avait été convertie en studio. Et puis il y avait John Prime avec us, qui était aussi avec nous, qui était vraiment un grand fan aussi. Et puis c'était fantastique. Et puis elle est très belle, même aujourd'hui en tant que femme de son âge, mais elle est fantastique. Et puis c'était magique. C'était vraiment un moment fantastique. Je me rappelle plus tellement en fait ce qu'on s'est dit parce que j'étais tellement en chaos de la rencontrer. Voilà, je ne sais plus.
Myriam Leroy, la musique a autant d'importance pour vous qu'elle en a pour nous?
Je vais vous décevoir, mais moi, ça fait quelques années que j'écoute plus de musique. La musique a déserté mon existence,
comme une
marée qui s'est retirée. Oui. Je ne sais pas. Bettina Reims, à ce micro, a raconté aussi que ça faisait des années qu'elle n'écoutait plus de musique, mais je ne sais pas d'où ça sort.
Bon, une marée, ça revient en même temps.
Ça revient, mais qu'elle revienne vite.
Elle va revenir, vous allez repartir avec l'album de Dylan Leblanc, vous allez voir, ça va revenir très vite. Dylan, on vient d'entendre le morceau Born Again, une chanson qui vous a permis d'imaginer ce que vous auriez été en vivant à l'époque lointaine où vos ancêtres français vivaient ici, et vous dites que vous auriez pu soit vous promener paisiblement dans les rues de Paris avec une femme et des enfants, ou bien être un criminel, comme nous sommes à Paris. Rassurez-moi, vous penchez plutôt pour la première option.
I always lean more toward I always seem to get into trouble.
J'ai l'impression toujours de me mettre dans de mauvaises postures.
Because I have a smart ass mouth.
Parce que je suis une grande gueule.
And I like to fist fight a little bit.
Et j'aime bien me battre. J'aime bien la baston.
So then that's gotten me into trouble.
Et ça m'a parfois attiré des ennuis, surtout en Amérique.
And also drinking too much and
surtout you know, quand je buvais trop.
You know, that's rock and roll. I don't know.
C'est ça le rock and roll que vous voulez.
But you know, I think I would like to try to be good.
Mais j'aimerais être quelqu'un de bien, au moins une fois dans ma vie.
Of getting into trouble, so I'm trying to stay out of trouble.
J'essaie aujourd'hui de ne pas d'avoir d'ennuis.
Et puisqu'on parlait de vivre dans une époque lointaine, la question est peut-être incongrue, mais je la tente. Est-ce que vous êtes heureux en 2019 à cette période?
Sometimes I do feel like I was born in the wrong era.
Parfois, je me dis que je suis né à la mauvaise époque. Surtout au niveau de la musique, parce que la pop, c'est pas quelque chose du tout qui me parle. Je trouve que les paroles sont nulles. Et je pense que les gens devraient passer plus de temps à écrire des textes plus forts. J'ai l'impression qu'artistiquement, cette période, aujourd'hui, c'est vraiment les chiottes. Pour moi, j'ai l'impression que tout ce qui a été fait et qui est important, c'est du passé. Leonard Cohen, Springsteen, Tom Petty.
Just Nina Simone.
Nina Simone.
Real artists.
Les grands artistes, les vrais artistes.
Those ages, we're not producing those kind of artists
anymore. Ça n'existe plus aujourd'hui. Il n'existe plus, il n'y en a plus. Enfin, il me semble.
I certainly don't consider myself.
Je me considère pas du tout à ce niveau-là moi-même.
But yeah, so I'm not. As far as am I happy in 2019?
Donc si je suis heureux aujourd'hui en 2019, oui, je suis content d'être là.
Mais
j'ai quand même beaucoup de mal à trouver ma place.
Myriam Leroy, je vois l'intérêt que vous portez à ce que raconte Dylan Leblanc, que vous êtes sur le point de revenir vers la musique, doucement mais sûrement.
Absolument, non, mais j'ai hâte de le voir manger la lumière.
Dans quelques instants, Dylan, vous serez en live sur la scène mythique de Pop-Pop-Pop, et c'est quelque chose qui vous excite, j'imagine, après votre tournée. Vous aviez particulièrement envie de jouer à Paris. D'où vient cette fascination pour Paris?
Il
a fallu que je supplie mon tour manager, je voulais absolument venir à Paris au moins pendant deux jours, j'avais jamais vu cette ville. C'est une des villes les plus romantiques dans la culture internationale. La première fois que je suis venu ici, j'étais bourré, donc je ne me rappelle de rien. Et je pense que je me suis évanoui dans l'entrée de l'hôtel. Là maintenant, je suis conscient, j'y vois clair et je voulais voir Paris.
Et on pourra vous voir, vous serez demain soir en concert aux Étoiles à Paris. Mais pour l'instant, comme promis, je vous laisse rejoindre la scène mythique de Pop-Pop-Pop. Prenez votre guitare, installez-vous et dès que vous êtes prêt, Dylan, vous me faites un petit signe et je lancerai le pop fatal. Voilà, Dylan Leblanc s'installe, il passe la bandoulière autour de son cou, il vérifie que le niveau est bon, le micro est bien là, il s'approche, il se demande où est passé son médiateur. Non, c'est un casque qu'il va le mettre sur sa tête, par-dessus sa casquette. Et
il est bien cet audiobook.
Aviateur, voilà, il est prêt et je lui fais le pop.
Thank you.
quatrième album de Dylan Leblanc qui vient de sortir et que nous vous recommandons chaleureusement. Je rappelle que Dylan sera en concert demain aux Étoiles à Paris. Merci Myriam Leroy, Les Yeux Rouges, merci. Votre excellent deuxième roman et lui aussi plus que chaudement recommandé par Pop Pop Pop. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop. Demain dans l'émission, lui.
Amau, Claudia l'appareil. Dis, je viens de me faire carjacking. On a volé l'auto.
Claudie Faucon, directeur et sales marketing manager des abattoirs d'Anderlecht et photographe de charme semi-professionnel, sera dans ce studio. Quoi ? Encore un Belge ? Ah, oh, mais non, mais c'est pas possible. Ils sont partout. Bien. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous. Plutôt comme disent ceux qui font des tutos belges sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast.
Suivez-nous
sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615, pop, 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 sur Instagram et Twitter.